Dans notre précédente causerie, nous avons présenté les rapports entre religion et politique au cours de deux régimes bien différents, la monarchie de Juillet de 1830 à 1848 et la Seconde République de 1848 à 1852. La première se caractérise par un esprit anticlérical qui a empoisonné l'atmosphère en réaction avec le cléricalisme qui s'était manifesté au cours du régime précédent, ce que nous appelons la Restauration. Cet anticléricalisme avait parfois abouti à des manifestations violentes, mais dans l'ensemble, ça n'avait pas affecté, en gros, l'exercice normal de la religion dans un diocèse fortement peuplé, nous l'avons dit. Le Lot approche de son maximum démographique, avec plus de 800 prêtres, un clergé très nombreux, très bien formé. La Seconde République, qui a mis fin à la monarchie de Juillet, est un véritable séisme politique qui a introduit le suffrage universel avec 64 000 votants désormais dans le Lot, à la différence de ce qui se passait précédemment. Et ce régime de la Seconde République n'était pas à l'origine défavorable à la religion, mais certaines théories ouvertement socialistes, plus ou moins extrémistes, ont fini par inquiéter le clergé, la hiérarchie, qui s'est ralliée finalement à ce qu'on appelait le parti de l'ordre, qui était personnalisé par le président de la République, Louis-Napoléon Bonaparte, qui ne rêvait que d'une chose, mettre un terme, tordre le cou à cette République pour installer son régime à lui, l'Empire, qui est effectivement proclamé en décembre 1852. Ainsi s'ouvre cette période du Second Empire qui a duré, elle aussi, 18 années, jusque au désastre de 1870. Au cours de ce Second Empire, les relations entre politique et religion sont bonnes. Elles reviennent au meilleur niveau et c'est l'époque, on peut le dire, où l'imprégnation chrétienne est la plus forte dans le département, c'est-à-dire dans le diocèse, avec ce clergé très nombreux, avec le grand séminaire, le petit séminaire de Montfaucon, avec des ressources assurées puisque les prêtres sont payés par l'État, avec aussi un enseignement qui est largement dominé par le clergé, puisque même des écoles chrétiennes ont le statut d'école publique dans les villes, à Cahors par exemple, avec notamment les frères de la doctrine chrétienne qui sont très actifs. Et c'est encore plus fort pour l'enseignement des filles, qui est pour plus des trois quarts aux mains des congrégations féminines, c'est-à-dire les deux congrégations essentielles dans le diocèse, les filles de Jésus qui ont été les premières fondées par l'abbé Liosu, et les religieuses du Calvaire fondées par l'abbé Bonhomme. Cet abbé Bonhomme qui était par ailleurs très hostile à la République et qui était en perpétuelle discussion avec les républicains qui étaient nombreux justement à Gramat, là où les filles du Calvaire ont élevé cet imposant couvent à l'époque que nous connaissons encore aujourd'hui et dont l'architecture s'impose dès que l'on arrive dans la localité. Donc 80% des petites filles et des jeunes filles sont aux mains des congrégations féminines, les institutrices laïques étant fort peu nombreuses. Ce régime du Second Empire, d'ailleurs, a multiplié les faveurs pour la religion. C'était aussi un moyen d'asseoir sa popularité, sans nul doute. C'est le moment, dans le Lot, c'est-à-dire dans le diocèse, où les églises sont trop petites. J'ai dit en effet combien la population avait augmenté dans les campagnes. On dit, les statistiques nationales disent que le département du Lot était un des départements où le rapport entre le nombre de cultivateurs et la surface cultivée était le plus fort. Il y avait un émiettement de la propriété considérable. Les églises étaient devenues trop petites et plus de 250 édifices ont été modifiés à cette époque, sous le Second Empire et au début de la Troisième République. 250 nouvelles églises. Alors, quand je dis nouvelles églises, ce sont parfois la destruction d'églises anciennes, que l'on peut regretter évidemment du point de vue artistique, parce que c'était souvent des églises romanes, mais qui étaient devenues beaucoup trop petites et dans un état de vétusté considérable. Elles ont été détruites impitoyablement et remplacées par ces églises gothiques au plan complètement stéréotypé que nous apercevons dans la plupart de nos églises du diocèse, avec un clocher pointu, mais une nef beaucoup plus grande pour accueillir les fidèles. Parfois, quand on était moins riche, on s'est contenté d'agrandir les églises existantes, c'est-à-dire que on prolongeait la nef de manière à ce qu'elle contienne davantage de monde et on conservait le chœur. Ce qui, encore une fois, du point de vue de l'histoire de l'art, était beaucoup plus satisfaisant. On peut constater cela également dans les églises de pèlerinage. Quand on regarde Notre-Dame de Velles à Vers, on voit effectivement que le chœur a été conservé, mais que la nef est toute neuve. Quand je dis toute neuve pour nous, c'est-à-dire vers 1860-1870, c'est le même cas pour Notre-Dame de Lille, où la nef a été également, à Luzèche, a été également prolongée. Ce besoin d'église se traduit également à Cahors. Nous avons vu combien, sous la monarchie de Juillet, par anticléricalisme, la municipalité se refusait absolument à construire une église à Cabessu. Eh bien, désormais, ces choses faites, sur les ruines de l'ancien couvent des Dominicains, juste au-delà du pont, ce pont qu'on appelait le pont Neuf, qui a été démoli au début du siècle suivant, se trouvait ce couvent dominicain qui avait été ruiné sous la Révolution, et dans une partie de ce couvent est édifiée l'église du Sacré-Cœur actuel que nous connaissons en 1852, qui occupe une partie de la nef de l'ancienne église des Dominicains. Nous voyons encore les ruines du chœur, complètement recouvertes de lierre aujourd'hui, et dans un très triste état. Donc, du côté de Cahors, c'est tout à fait significatif. Des couvents sont également agrandis à cette époque. Par exemple, les filles de Jésus s'installent à côté de ce couvent des Dominicains, ils installent leur pensionnat. Une école secondaire de garçons est également construite à l'emplacement aujourd'hui en haut du boulevard, à gauche, des terrains qui ont été ensuite repris par la municipalité où on a édifié le premier établissement secondaire pour les filles. Donc, une période assez triomphante, vous voyez, pour l'Église, avec ses constructions, avec l'enseignement. Et quand il y avait un besoin particulier, on pouvait s'adresser directement à l'empereur pour avoir des subventions, des faveurs. C'est ce qu'on appelait parfois la cassette de l'impératrice. On écrivait à l'impératrice par l'intermédiaire des Murat. Parce qu'en effet, les députés à cette époque sont dominés par la famille Murat, les descendants, ou plutôt les neveux de Murat, le maréchal d'Empire, roi de Naples, qui possédait le château à la Bastide de Fortanière, et la localité même de la Bastide a été débaptisée, on a enlevé le mot Fortanier, du nom de Fortanier qui était un des seigneurs du Moyen-Âge, et remplacé par la Bastide Murat, que nous connaissons aujourd'hui. Mais c'est là que les Murat avaient leur château, et on disait que les Murat tenaient le département, parce que rien ne se faisait sans eux. Ils avaient le conseil général, ils avaient la députation, et ils avaient la faveur de l'empereur, ce qui fait qu'ils jouaient le rôle bien souvent de boîte à lettres vis-à-vis du pouvoir pour obtenir ce qu'on voulait. On peut voir même dans nos églises des signes de cette faveur, par exemple des tableaux, de grands tableaux, et quand on regarde dessous, on voit « don de l'empereur ». Don de l'empereur, c'est un moment où les peintres peignent beaucoup de sujets religieux, et ces sujets religieux sont répandus parfois, sous forme de copies parfois, dans le département. C'est le cas par exemple dans l'église du Sacré-Cœur actuelle. Donc, un environnement qui est extrêmement favorable à la religion sous ce Second Empire. Les évêques, qui sont à la tête du diocèse à ce moment-là, sont au nombre de trois. Le premier, c'est Monseigneur Bardou, qui était un Tarnais, qui était originaire de Lautrec. Dans le Tarn, il a été évêque de 1842 à 1863. Et c'est un évêque dont l'épiscopat a été très rempli. Il faut notamment signaler les grandes restaurations de Rocamadour qui s'effectuent à ce moment-là. Des missions, nous avons déjà parlé des missions, qui étaient chargées d'entretenir la foi des populations rurales ou urbaines par des grandes manifestations. C'est Monseigneur Bardou qui a voulu l'église du Sacré-Cœur, dont nous venons de parler. Un couvent des Capucins s'installe dans la haute ville, dans ce qui est aujourd'hui le local des archives départementales. C'est son épiscopat également qui est installé solennellement la Vierge à l'extrémité du pont Louis-Philippe, que nous voyons aujourd'hui, même sans son dé de pierre. Et ce Mgr Bardoux se signale par sa docilité face au gouvernement impérial. En 1855, il reçoit la Légion d'honneur, ce qui est certainement un signe de satisfaction du pouvoir vis-à-vis de sa personne. En 1854, dans la lettre de Carême, il condamne les socialistes, les communistes et les phalanstériens. Alors ça, c'est les socialistes, il y en avait effectivement qui avaient signalé leur action lors de la Seconde République. Il y avait eu deux députés socialistes dans le Lot à ce moment-là. Il n'est plus question aujourd'hui de députés socialistes. Le gouvernement s'arrangeait pour confisquer le suffrage rural. Les communistes, on commence à peine à en parler. Et les phalanstériens. Les phalanstériens, c'est une allusion à une doctrine sociale héritée d'un philosophe Fourier qui avait prévu de remodeler la société en créant des unités, des unités de production, des unités de vie, regroupant tous les hommes dans des phalanstères, dans des unités où ils auraient à la fois travaillé, vécu, se seraient distraits. Bref, un chamboulement évidemment épouvantable aux yeux de la hiérarchie catholique. C'est également l'époque de très grandes manifestations quasi officielles. Par exemple, en 1853, c'est le couronnement de la Vierge de Rocamadour. Avec les autorités civiles, au premier rang, avec le 46e régiment de ligne qui forme une haie d'honneur aux processions et aux manifestations religieuses. Il y a donc là un aspect triomphaliste de l'Église et de collaboration avec le Second Empire que l'Église paiera plus tard, très cher, nous le verrons, sous la Troisième République. C'est également l'époque de mission. En 1859, à Cahors, c'est la grande mission du père Marie-Antoine, qui était un capucin, prédicateur célèbre de Toulouse. Nous avons des gravures aujourd'hui qui nous montrent les foules sur le quai, et une croix aujourd'hui, près de Saint-Ursus, rappelle cet événement-là. Donc, Mgr Bardoux apparaît comme le chef d'une église installée qui a les faveurs du pouvoir, qui a des ressources abondantes pour faire de grands travaux. Ressources en argent, donc, ressources en personnel aussi, puisque jamais le clergé n'a été aussi nombreux. Le second évêque de cette série est Mgr Péchoux, évêque de 1863 à 1865. 22 mois seulement. Il a été sacré à Rocamadour et il a continué exactement sur la lancée de son prédécesseur, c'est-à-dire d'un christianisme triomphant.